Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans une semaine sportmédable, une nouvelle édition. Et nous sommes nombreux aujourd'hui autour de la table. Bruno Salvé, Olivier Degnaud, Jean-Luc Leroux et Éric Figuère à mes côtés. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et
bonsoir,
merci. Bonsoir. Merci d'être avec moi ce soir pour décrypter une nouvelle fois l'actualité sportive internationale. On parlera de rugby, de football, de tennis, de golf, il y en aura pour tout le monde. On va ouvrir cette émission avec du rugby et on va parler de ce deuxième test match des Bleus, qui c'est les Bleus qui affrontaient donc les Fidji. On va commencer avec vous, Bruno Salvé. Voilà, une victoire rassurante ou pas, cette victoire face aux Fidji, 34-21 après la défaite face à l'Afrique du Sud.
Bah, c'est toujours une victoire, mais après une entame de match, on va dire parfaite, hein, les 20 premières minutes où les Fidjiens n'ont pratiquement pas touché le ballon et les Français ont proposé un jeu très aéré, basé sur le mouvement, à la fois sur le mouvement mais aussi sur la conquête. Et au fur et à mesure, bah, les Fidjiens sont revenus au score, alors qu'ils ont pris un carton jaune en plus en première mi-temps. Et puis on connaissait la puissance de cette équipe fidjienne, hein, puisque beaucoup de joueurs évoluent en top 14, donc on les connaît, on sait qu'ils ont des gabarits assez impressionnants, très véloces, très rapides. Et donc, ça a été compliqué ensuite pour les Français, puisque les Fidjiens sont revenus à 21 partout. Et il a fallu s'empoigner et puis vraiment essayer de se dégager de ce piège-là pour remporter ce match. Quand même 4 essais à 3. Donc c'est vrai que les Fidjiens nous ont proposé une belle opposition. Et c'est pas rassurant pour l'équipe de France aussi, qui a été décimée dans ce match assez rapidement.
On va en parler de tous les blessés dans cette équipe de France,
oui,
blessés, absents.
Oui, et puis sur le match, quoi. Donc le 3-400 de Barassi qui sort sur une commotion, remplacé par... je ne me rappelle plus le nom du joueur, ça va me revenir. Gailleton, donc le 3/4 centre de Pau, qui lui aussi sort sur un protocole commotion. Donc on se retrouve avec un troisième ligne qui joue au centre derrière. Ce n'est pas un poste de prédilection pour ce joueur-là. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Et ça s'annonce compliqué parce que les joueurs qui ont été commotionnés n'ont pas le droit de rejouer la semaine suivante. Donc il va falloir puiser dans les ressources. Du rugby français, beaucoup plus jeune, puisque Galtier a convoqué quand même pas mal de jeunes joueurs pour préparer ces matchs.
Une pré-liste avec 42 joueurs.
42 joueurs, comme d'habitude, oui, avec beaucoup de jeunes joueurs. Donc on va peut-être voir sur le dernier match contre les Australiens de nouveaux joueurs intégrer cette équipe de France. Mais il va falloir aussi prendre ce match très au sérieux, même si les Australiens ne sont pas très bien.
Ils ont encore perdu ce week-end.
Ils ont encore perdu, et vraiment largement face à l'Irlande.
46-19 pour l'Irlande.
Voilà, 46-19. L'Irlande qui est quand même la troisième nation mondiale au niveau du classement, donc qui n'est pas une petite équipe, et qui a donc mis une correction aux Australiens. Donc les Australiens vont revenir revanchards, et surtout vont essayer de s'imposer au Stade de France pour ne pas revenir, entre guillemets, Fanny, de cette tournée européenne.
Mais on l'a vu sur les deux derniers matchs du 15 de France, il y a eu un premier match contre l'Afrique du Sud avec une deuxième mi-temps, les 20 dernières minutes avec plus rien. Et là, c'est pareil, il y a un trou, on a l'impression qu'il manque peut-être 15-20 minutes dans chaque match. Est-ce que vous êtes du même avis, Éric Figuère,
sur... Oui, absolument. On voit bien qu'il y a quand même des manques. On voit bien que le turnover lié aux blessures, lié aux besoins de régulièrement faire entrer des jeunes, à un moment donné, crée des manques aussi. Ça leur donne de l'expérience, c'est une très bonne chose, mais c'est pas suffisant pour créer du résultat. Et quand on joue l'Afrique du Sud, ben évidemment, on voit qu'il y a deux classes d'écart. Et quand on joue les Fidji, alors qu'on est, évidemment supérieur, même si les Fidji proposent toujours beaucoup de jeux, beaucoup d'impact, ils sont très forts là-dessus. Et les protocoles commotion, d'ailleurs, sont peut-être pas tout à fait anecdotiques vis-à-vis des Fidjiens, qui sont vraiment des Golgothes. Et donc, ça commence à laisser des traces. Et puis, on ne sait pas du tout ce qu'on a devant nous. Alors le match contre l'Australie justement va être intéressant. On dit souvent que ça va nous étalonner, etc. Et là, je pense que ça va être le cas, puisque le match Australie-Irlande a montré ce qu'une vraie et très bonne équipe mondiale, l'Irlande, faisait contre les Australiens. Ben, on va voir ce que la France va être capable de faire contre ces mêmes Australiens en difficulté.
Et justement, il y a peut-être une classe d'écart entre ce top 3 mondial Les voit, hein, l'Irlande, alors, l'Afrique du Sud, il y a l'Angleterre aussi.
Avec tous nos joueurs, avec tous les joueurs de l'équipe de France disponibles, il n'y a pas une classe d'écart entre l'Irlande et la France. Il n'y a pas d'écart entre la Nouvelle-Zélande et la France. Ce n'est pas vrai. Entre l'Afrique du Sud, oui, mais parce que tout le monde a une classe d'écart avec l'Afrique du Sud. C'est une évidence. Le problème, c'est qu'on n'a plus l'essentiel de nos joueurs. Et même si le talent français est incontestable, on le voit, tous ces jeunes joueurs. Mais voilà, c'est peut-être pas suffisant aujourd'hui pour rivaliser avec l'Irlande, avec l'Afrique du Sud, avec la Nouvelle-Zélande, même si elle est un peu dans le creux de la vague, ça reste difficile.
On en revient encore au cumul des matchs et
absolument.
Au nombre de blessés, quoi. C'est vrai que
le top 14 qui est chronophage, qui est physiquement difficile.
Et ce qu'on peut trouver de rassurant dans ce match-là contre les Fidjiens, c'est le brillant retour de Charles Olivon, qui est revenu après 10 mois d'arrêt du rugby à cause d'une grosse blessure. De Grégory Aldrit, qui a repris son rôle en numéro 8 et qui a sorti un très très gros match.
Qui devait jouer ou qui était potentiellement sur la feuille pour le premier match contre l'Afrique du Sud,
qui avait été écarté
au dernier moment. Et au final, pour son bien ?
Absolument.
Et pour le bien du 15 de France ?
Complètement, parce que ces deux joueurs ont apporté énormément et puis d'expérience, parce que ce sont des joueurs quand même s'ils ne sont pas très âgés, des joueurs qui ont de l'expérience au niveau de cette équipe de France. Et une entrée aussi remarquable de Maxime Lucu, qui a bien géré derrière ce pack qui n'était pas très dominant, puisque, comme le disait Eric, les Fidjiens, ils sont très costauds et ils nous ont bougé aussi. Donc c'est ce qu'on peut retenir d'encourageant dans cette équipe de France. Et surtout les 20 premières minutes où on a vu vraiment des choses très intéressantes. Maintenant, un match, c'est pas 20 minutes, c'est 80 minutes.
C'était très intéressant. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est un match de 80 minutes.
Absolument.
Et qu'on a quand même une habitude fâcheuse depuis un certain moment, c'est de s'écrouler en fin de match. Généralement, on tient bien les bonnes équipes, le top 3, ce qu'on appelle le top 3. Mais je suis assez d'accord avec Eric, on fait partie des meilleurs, il n'y a pas de secret. Mais ceci étant, on a un souci sur la durée, on ne tient pas. Et contre les Fidjiens, ça a été un petit peu plus facile parce qu'on ne joue pas dans la même catégorie, c'est quand même un niveau un petit peu en dessous. Mais on a quand même ce problème de fin de match avec nos finisseurs qui finissent pas. Si sur les équipes un peu intermédiaires on finit, ça y est, c'est sans problème, mais dès qu'on arrive sur une équipe qui est un petit peu capée, je pense à l'Angleterre, je pense au box, je pense à la Nouvelle-Zélande, et ben sur la fin, on a du mal. Ça se joue à peu de choses, hein, ça se joue à un point, deux points. Là, sur les Néo, ça s'est joué à beaucoup plus de ça, parce qu'on s'est vraiment écroulé. On s'est vraiment écroulé, et puis il y a eu beaucoup de fautes de main. Là, ça a été aussi un problème de manipulation. On a des soucis avec nos mains, ça c'est... Mais sur Fidji, j'ai noté une chose, c'est que ça repose quand même sur peu de joueurs. Il y a quand même, moi, quand je vois les notes qui ont été données aujourd'hui, jouer un 6,5 à Olivon, qui à mon avis le mérite, parce que ça, à mon avis, c'est le meilleur joueur du match, c'est l'homme du match pour moi. Mais ensuite, on a quand même 6 à Marchand, 6 à Jolong, 6 à Jégou, Aldrit et deux porteurs. On leur donne 6, mais derrière, les notes elles sont pas bonnes, c'est du 2 ou du 3, c'est-à-dire que ça, l'équipe elle a été portée sur 6-7 joueurs.
Mais c'est souvent le cas. Quand le collectif n'est pas au complet, est-ce qu'on peut pas se poser cette question-là ? C'est quand il manque une grosse base de cette équipe de France, forcément, on se repose sur les expérimentés.
Il en met 6 sur 7, heureusement. Mm-hmm. On peut lui dire merci. Il en met 6 sur 7.
Ramos qui n'a pas fait un match extraordinaire.
Il a été un peu tendre au niveau de l'animation, même
sur ses coups de pied placés ou autre.
Défense,
voilà. Donc dur. Ça n'a jamais été son dada de mettre des gros caramels en défense. Mais c'est vrai que oui, l'équipe, elle est quand une équipe est remodelée aussi souvent aussi, c'est pas facile d'avoir des automatismes. Je pense que les équipes du Sud sortent de 3 mois où ils ont tous évolué ensemble. Ce sont quasiment des équipes de clubs. Quand on voit l'Afrique du Sud, ça fait 3 mois qu'ils jouent ensemble. C'est un club, quoi, en fait. Hein. Les automatismes, ne serait-ce que la cohésion sur le terrain, en dehors du terrain, les gars vivent ensemble depuis le rugby championship et ainsi de suite. Donc ça aide énormément. Les Français ne se sont retrouvés que depuis 2 ou 3 semaines. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et en plus, bon, on a aussi cette avalanche de blessés. Donc
problème de préparation ?
Ou de trop de matchs, tout simplement.
Le modèle français aujourd'hui, pour l'équipe nationale, manifestement n'est pas en adéquation avec l'objectif des résultats pour l'équipe nationale. C'est plus possible aujourd'hui, j'ai l'impression, de faire un top 14 aussi fort, aussi demandeur en énergie, et puis derrière donner du temps aux joueurs pour l'équipe nationale, de préparation, de fraîcheur. Je crois que les deux vont pas ensemble. Tu viens de parler, oui, Bruno, de l'Afrique du Sud. Clairement, aujourd'hui, ces modèles-là sont très différents d'une autre et sont plus efficaces avec leur équipe nationale.
L'Afrique du Sud, les joueurs ne jouent pas en club. Ils jouent essentiellement pour leur pays.
Ils sont protégés pour défendre. Oui,
ils sont protégés. Ce qui sera intéressant, c'est d'avoir l'économique. Ce qui sera intéressant, c'est d'avoir les datas aussi de voir, puisque bon, les 20 premières minutes ou les 30 premières minutes pour l'équipe de France étaient quand même assez bonnes. Et c'est à ce moment-là où ils ont de la fraîcheur encore. Ils ont encore de la fraîcheur. Ils sont capables de mettre en place les combinaisons, ils sont encore concentrés sur ce qu'ils doivent faire, les placements, les déplacements. Avec la fatigue, forcément, il y a des fautes techniques qui arrivent et des fautes stratégiques de placement,
c'est
de concentration.
Aussi ça, le professionnalisme, hein, tu as entièrement raison.
Je dis ça, mais oui, mais avec la fatigue, comme il y a des joueurs blessés, comme ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, forcément, voir pourquoi sur la durée du match ça ne tient pas, ça revient aussi sur la préparation physique qu'ils n'ont pas eu ensemble, tous ensemble depuis 3 mois, contrairement aux autres équipes. Et c'est vrai que analyser le pourquoi, parce que les Fidjiens, t'as vu l'impact un peu à chaque fois qu'il y avait un impact.
C'est net.
Et avec les datas, avec les GPS, aujourd'hui on a,
on peut comprendre, on peut quelle puissance,
avoir la puissance de chaque impact et du coup ça,
les vitesses de course,
on a tout, les changements de direction,
la fréquence cardiaque. C'est vrai que là-dessus, voilà. On a énormément de moyens d'évaluation et d'évaluer les joueurs. Mais bon, c'est un autre fonctionnement dans ces nations du Sud. Et même en Irlande, par exemple, les Irlandais, ils ont eu un championnat à 6 équipes. Donc imaginez le nombre de matchs.
Tu peux remédier à ça,
équipes de province,
d'une semaine à l'autre. Mais quand les joueurs, après, repartent dans leur club, reviennent pour le tournoi des 5 nations, je pense que ça va.
Les 6 nations,
oui. On va rester à l'ancienne époque.
Sans les Italiens.
Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un modèle économique. On est dans un modèle économique qui est exigeant, c'est-à-dire que le rugby aujourd'hui, il n'est plus amateur, il est professionnel, spécialement en France. Donc le business, c'est un business. Donc le business, il faut que ça tourne. Voilà, fin de l'histoire. Et ce modèle-là, eh ben aujourd'hui, on n'en sortira pas. On peut pas. On est dans une phase on est dans un carcan économique qui ne peut pas nous permettre d'avoir cette approche qu'ont les autres équipes. On ne faire un sport que pour l'équipe nationale. En France, c'est juste pas imaginable. Il y a tellement de facteurs économiques qui tournent autour de tout ça, des sous-traitants. On peut pas. Voilà. Donc, par contre, ce que je trouve, moi, ce qui m'a toujours un petit peu, c'est comment dire, pas bizarre, mais en France, au foot, par exemple, le championnat de France, il s'arrête quand il y a un match national. Lui, il s'arrête pas. Bon. Lui, le championnat continue malgré les matchs internationaux, c'est-à-dire que les équipes de clubs sont privées de leurs meilleurs joueurs qui vont jouer à l'international. Moi, ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu bidouillé. J'ai dit, mais c'est pourquoi
en sachant que le top 14 a finalement peu d'équipes. Il y a pas, on parlait du foot. Le foot, ouais. Le championnat est à 18 clubs. Ouais. Il y a en plus la Coupe de France. Ouais. Il y a quand même beaucoup plus d'échéances. Et là, il y en a moins. Et malgré tout, on n'arrive pas à les laisser, à arrêter le championnat pendant qu'il y a un match de France.
Tu as 2 matchs de foot dans la semaine. En rugby, tu peux pas jouer 2 matchs d'affilée.
On pourrait venir au foot aussi tout à l'heure parce que là, pendant cette
trêve, l'équipe de France, on pourra
parler du nombre d'internationaux qui étaient sollicités dans le championnat français. C'était 158. Donc c'est énorme, énorme.
Hein. Après, on peut trouver toutes les explications qu'on veut, et c'est vrai, toutes ces explications-là sont vraies. Mais après, on peut aussi se demander si on est assez bon. Parce qu'en fait, on n'ose jamais dire... Pas spécialement pour le rugby. On n'ose jamais dire on est bien pensant, bien sûr qu'on est bon, bien sûr que c'est la faute à ci, c'est la faute à là. Mais je parle par rapport au tout meilleur. On l'a dit, l'équipe de France, elle fait partie des 3-4 meilleures équipes du monde. C'est incontestable.
5e, mais elle est indéniablement dans le top 5.
Mais même, voilà, 4e, 5e. Mmh. Mais pour gagner une Coupe du Monde, parce qu'en fait, le seul enjeu, il est là. Le seul enjeu, c'est est-ce qu'on est capable de gagner la Coupe du Monde. Oui. Tout le reste, c'est du blabla.
On va faire notre
tournoi des nations, ok. On va faire notre top 14, ok. On va faire nos petits tests de temps en temps et on va globalement plutôt réussir parce qu'on est justement dans les 4-5 meilleures équipes du monde. Mais qu'est-ce qui nous intéresse au final ? C'est la Coupe du Monde.
Oui,
c'est
sauf
la Coupe
que
du Monde qu'on n'arrive pas à gagner.
L'organisation économique du rugby français est faite pour les clubs. Et tu l'as dit tout à l'heure, les clubs qui sont champions d'Europe ces dernières années sont des clubs français. Le Stade Toulousain, La Rochelle, Mais le problème, c'est que on privilégie le club et c'est normal. Les joueurs sont payés par les clubs, ils sont pas payés.
Mais tout à l'heure, on parlait aussi.
Justement, on en vient au modèle économique. Où, dans certains pays, les clubs, s'il n'y a que 6 clubs dans le championnat, le pays, l'équipe nationale est en avant. Et comment fonctionne le système de paiement faudrait aussi se pencher là-dessus, sur comment les joueurs sont payés en Afrique du Sud, en Irlande.
Les salaires ne sont pas les mêmes. Pourquoi
les salaires ne sont pas les mêmes.
Pourquoi ils viennent tous jouer en top 14 ? Les Sudaf, les Néo-Zélandais, les Australiens, ils viennent tous. Il y a un paquet de joueurs. Les Fidjiens, ils viennent tous jouer en top 14 parce que ça paye beaucoup mieux. Donc c'est vrai que c'est pas du tout le même système économique. C'est rare d'aller voir des joueurs européens aller jouer en Afrique du Sud ou
mais c'est très rare.
En Nouvelle-Zélande,
pour l'expérience. Ils y vont pour l'expérience.
Ouais, mais bon, il y a très peu, quoi.
Il y en a quelques-uns qui sont partis en Nouvelle-Zélande aussi.
Beaucoup de Néo-Zélandais vont aussi au Japon parce que ça paye, bien. Mais après, il faut voir aussi, il faut se mettre à la place des joueurs. Hein. La carrière d'un rugbyman de haut niveau, ça ne dure pas très longtemps. On le voit par rapport aux blessures. Donc les gars, s'ils peuvent engranger, ils essaient d'engranger de l'argent. Mais c'est compliqué.
C'est leur métier. Quoi.
Donc, bien sûr, c'est un métier.
Donc c'est l'argent first, le sport passe. Ils aiment ça, vraisemblablement. Je pense qu'ils aiment ce sport.
Bien sûr qu'ils aiment.
Mais ils aiment aussi le pognon et ils en ont besoin.
Parce qu'ils en vivent.
Ça, ils ont un train de vie, ils ont ceci, ils ont cela. Les mecs, ils en vivent. Et puis, ils sont pris dans un système économique duquel ils ne peuvent plus sortir. Ils sont embrigadés là-dedans. Ils ont été formatés comme ça. Et ça va être très compliqué de changer ce modèle économique en France.
On n'est pas encore au salaire des footballeurs, je vous rassure.
Ah, on est loin de là. on va faire la transition avec le football, puisque l'équipe de France de rugby, le 15 de France jouera le week-end prochain contre l'Australie.
Oui.
L'équipe de France de football, elle, a terminé son année avec une victoire lors des qualifications de la Coupe du Monde. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes toujours dans une semaine sportmidable. On a fait un gros point, un gros focus sur le 15 de France de rugby. On va parler un peu de l'équipe de France de football qui s'est donc imposée 3-1 sur l'Azerbaïdjan. Dernier match de qualification à la Coupe du Monde. Là aussi, il y a eu des changements. Là aussi, le sélectionneur a décidé de faire tourner parce que la qualification était déjà là. Certains joueurs avaient besoin de repos. Olivier Degnaud, ça marche comme ça.
C'est-à-dire qu'ils ont gagné 4-0 contre l'Ukraine au cours de ce match. Enfin, à l'issue de ce match, ils ont eu leur qualification. C'est l'usage en Coupe du Monde, d'habitude. On fait ce qu'ils appellent, on met l'équipe des coiffeurs du dernier match. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Didier Deschamps a fait tourner son effectif. Ça a permis de donner un petit peu d'expérience à certains joueurs.
Tous les postes.
Ce changement. L'idée, c'est de, notamment pour le gardien de but.
Malheureux.
Et il a pris un but très rapidement. Et c'est le premier gardien de but à prendre
un but aussi rapidement depuis presque 90 ans.
C'est comme ça, ça fait partie.
C'est un record quand même.
C'est un record.
Il sera dans les annales comme ça.
Il restera.
Il préféré, surtout qu'en ce moment, il est pas mal décrit.
Au PSG, c'est
au PSG. Non, mais bon, ça a permis à Didier Deschamps de faire tourner. Mbappé est rentré au Real Madrid, ça a fait un petit peu une polémique, mais enfin bon, je pense qu'il a intérêt aussi à avoir un Mbappé au top de sa forme et
à chaque rendez-vous,
qu'il y ait une confiance mutuelle entre les deux, entre le sélectionneur et le joueur, son capitaine. Bon, là-dessus, je pense qu'il y a un accord, à mon avis, avec le Real Madrid, de façon à ce que tout se passe bien. Voilà, quoi. Donc, l'objectif était de se qualifier. Deschamps, c'est quelqu'un de pragmatique. Donc, le dernier match, il a fait tourner. Il a dû... fallait gagner.
On a vu des nouveaux ou des joueurs qui sont appelés depuis très peu de temps marqués aussi en attaque. Mateta, Kliouche.
Rien à dire. Après, il y a des blessés. Il y a Dembélé qui n'était pas là, etc. D'autres blessés qui vont revenir pour la Coupe du Monde.
Désiré Doué. Donc, là aussi, ça laisse la place.
Tout à fait. Barcola a marqué. Bon, voilà, après, c'est la première fois que c'est une Coupe du Monde qui va se jouer avec 48 équipes. Donc, il en reste 45 à sélectionner, il y en a déjà qui sont sélectionnés, mais il y en a entre les États-Unis, le Mexique et puis le Canada qui étaient qualifiés d'office puisqu'ils sont organisateurs.
Bah, si ça t'intéresse, moi j'ai la liste.
Petit à petit, effectivement.
Ah bah vas-y, si t'as la liste de ceux qui sont déjà qualifiés.
Actuellement, ceux qui sont déjà qualifiés, il y a l'Angleterre, la France, la Croatie, le Portugal, la Norvège, ça c'est l'Europe.
Parce qu'il reste en Europe, juste pour couper, il reste encore 11 places.
Il reste 11 places à prendre. Voilà. 7 qualifications directes, 4 via les barrages qui devraient se dérouler en mars. Ouais. En zone Afrique, il y a 9 pays directement qualifiés. T'as le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana. Et ouais, le Cap-Vert, étonnant, et l'Afrique du Sud, bon ça c'est pas une surprise, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, voilà. En Asie, 8 pays ont été directement qualifiés, le Japon, l'Iran, l'Ouzbékistan, la Jordanie, la Corée du Sud, l'Australie, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Bon là on joue dans un registre un peu, dans un niveau un peu inférieur.
Mais des pays qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ça laisse aussi des portes ouvertes, et on verra après.
À part l'Australie, bon l'Australie on la connaît, on sait qui c'est. Le Japon on les connaît aussi, on les a vus jouer. Maintenant les autres, moi je les connais pas, je sais pas comment ils sont. Voilà, et dans la zone CONCACAF, il y a 6 places directes. Il y en a 3 qui ont déjà été qualifiées. Il y a les États-Unis. Le Canada et le Mexique, mais qui sont les pays co-organisateurs, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Autrement, il y a les 6 pays directement qualifiés, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, l'Équateur, la Colombie et le Paraguay.
Là, ça reste des classiques américains.
Voilà, et dans la zone Océanie, il n'y a qu'un pays qui est directement qualifié, on connaît, c'est la Nouvelle-Zélande.
On aura un petit mot justement sur ces barrages intercontinentaux avec la Nouvelle-Calédonie,
qui peut toujours
se qualifier, et qui devrait affronter la Bolivie, la République démocratique du Congo aussi, et puis on attend les 3 autres équipes pour savoir le tirage final de la Nouvelle-Calédonie. Mais cette Coupe du Monde, donc en 48 équipes, avec donc l'équipe de France, 2 équipes par poule qualifiées pour les 16e de finale, les meilleurs 3e, donc ça laisse quand même une qualification presque assurée pour l'équipe de France aux phases à élimination directe pour le 16e de finale.
Et là, par contre, je voyais que l'Italie allait faire les barrages. L'Allemagne n'est pas encore sûre d'être qualifiée.
Non. L'Italie qui a pris 4-1 par la Norvège, quand même.
C'est étonnant. En plus, en Italie.
En Italie, on l'a aussi, malheureusement pour eux.
L'Italie, c'est une des nations du football historique.
Et encore en difficulté pour jouer cette Coupe du Monde-là.
C'est pas la première fois. Ça fait quelques compétitions internationales.
Sauf à ce que je me trompe, mais deux fois d'affilée qu'ils ne participent pas. Si c'était une troisième fois, ce serait vraiment
On est souvent critique envers Didier Deschamps. N'empêche que si on regarde Didier Deschamps depuis qu'il est sélectionneur, il a qualifié l'équipe de France à chaque fois.
On a aussi le droit, et je le dis d'ailleurs facilement, puisque j'adore Didier Deschamps et je trouve que ce qu'il a fait est absolument formidable. Mais on a aussi le droit de critiquer finalement ce qui se passe, parce qu'il fait toujours du très bon travail, il n'y a aucune discussion là-dessus, mais simplement ça fait longtemps qu'il est là, l'usure du temps, et puis on a trop pris l'habitude, alors tant mieux pour l'équipe de France et tant mieux pour nous malgré tout, puisqu'il sait gagner, ou en tous les cas il sait quasiment gagner tout le temps, il sait se qualifier, il se qualifie tout le temps, il a aussi un peu de chance sur les tirages au sort,
de temps en temps,
bon, mais ça fait partie du jeu.
La fameuse baraka.
Malgré tout, on a quand même le droit de dire que ce que l'équipe de France nous propose depuis quelques mois, voire quelques années, est quand même un peu triste. Ouais. Voilà, on a le droit de le dire. C'est pas non plus.
Deschamps, il est ce qu'il est, mais il fait le boulot. Mais par contre, ce qu'il faut souligner, et ça, on l'oublie de temps en temps quand même, c'est que on a des joueurs qui sont d'exception, mais c'est pas le hasard. On a mis en place en France un système de formation dans la club qui fonctionne, qui tourne, avec des résultats qui sont excellents. On voit des vedettes, enfin des talents qui arrivent régulièrement. Tous les 6 mois, il y a des nouvelles têtes qui arrivent et qui sont très bonnes. On voit d'ailleurs que le français s'exporte bien à l'étranger. Et les Français à l'étranger sont vraiment très performants. Donc c'est pas le hasard. Deschamps bénéficie aussi d'une super opportunité avec des joueurs qui sont talentueux. Après, la recette, c'était effectivement de faire monter la mayonnaise avec tout ça et de les faire jouer ensemble. C'est ce qu'il a réussi à faire.
Et c'est ce qu'on verra dans les prochains mois, justement, à cette Coupe du Monde avec cet effectif, les jeunes, les moins jeunes qui seront réunis. On va tourner les petits clins d'œil de notre animateur qui gère l'antenne et qui voit l'heure tourner. Il est déjà 17h30 et oui, ça passe vite. C'est l'heure de tourner une page de pub et on se retrouve dans quelques instants.
RRB, la pub. Envie d'une pause gourmande à l'italienne? Dino Pizza vous régale au centre équestre La Gourmette à Magenta. Désormais, découvrez nos petites pizzas et nos géantes à partager. Midi et soir, 7 jours sur 7. Sur place ou en livraison avec Midit, Dino Pizza, téléphone 31 91 92.
Waouh, t'as fait les vides, chérie? Elles sont nickel. Par contre, t'as vu l'état du rail de la fenêtre? On dirait Lance-Vata après un cyclone.
T'inquiète, Mobilette, j'ai acheté la brosse spéciale rail de fenêtre de chez C-Local. Regarde.
Waouh, mais t'as fait ça en 2 secondes!
Alors? Attends, c'est moi ou elle vient de se prendre la vitre, la mouette là?
Ils ont des stickers spécial oiseaux bêtes chez C-Local. Jusqu'au 30 novembre, la brosse rail de fenêtre est à 350 francs seulement chez C-Local. Voir conditions en magasin. Le 4, 186 rue Jacques Ekaoué. Faites vos courses autrement.
Avec Canal+, les fêtes s'annoncent généreuses. Offrez-vous le meilleur du cinéma ultra récent, les plus belles rencontres sportives et les dernières séries à dévorer. Mais pas que. Pour tout nouvel abonnement Canal+, repartez avec une Smart TV 4K QLED 126 cm pour seulement 5 francs de plus. Faites-vous plaisir et à vous les soirées cinéma à la maison en 4K. Jusqu'au 31 décembre, pour tout nouvel abonnement de 24 mois aux formules Sélection Plus, Essentiel Plus, Premium Plus et Ultimate Plus, un téléviseur Smart TV 4K Hisense QLED est remis pour 5 francs de plus. Offre soumise à condition, valable en Nouvelle-Calédonie dans la limite des stocks disponibles. Plus d'informations sur www.canalplus-calédonie.com.
Avec Tricodec, recycler, jouer et gagner. Du 23 octobre au 28 novembre, tentez de gagner un iPhone reconditionné, une nuit au Sheraton et un bon d'achat chez Géant. En déposant votre ancien téléphone pour son recyclage chez Tricodec, à la ressourcerie de Nouméa ou chez Sivom VKP à Koné. Plus d'infos sur la page Facebook de Tricodec. Tricodec, ensemble, agissons pour notre île. Règlement disponible sur demande.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
Il est 17h32 et c'est l'heure de retrouver Léo Fichou pour la suite de votre semaine sportmidable.
Une semaine sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Seconde partie d'une semaine sportmidable. On n'a pas arrêté de parler en off et on pourrait continuer pendant des heures à parler rugby, football, tennis, golf. Et là, on va continuer avec du tennis. Il y avait le dernier match où... L'avant-dernier match de l'année, c'était les Finals ATP, une finale attendue entre les deux meilleurs joueurs de l'année, ouais. des dernières années, entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner.
Et des prochaines.
Et des prochaines aussi, effectivement. Voilà, donc une victoire de Yannick Sinner.
Ça va vite.
Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas battu son meilleur
ami. Ouais, il était un peu favori sur dur. Hein. On sait qu'il est quasi imbattable sur dur, donc c'est compliqué pour les autres, le match, et même pour Alcaraz, quand on voit le score.
Mais non, il fallait voir les vitesses de balle, mais c'était juste impressionnant, quoi. Ça joue, c'est des, les mecs, c'est des jets, quoi. C'est supersonique.
Je me pose toujours des questions derrière avec Sinner, parce qu'il a un physique quand même assez particulier, ou en tous les cas un peu différent de beaucoup d'autres tennisman. Ouais. Et il est très mince, il est longiligne, il lâche strictement rien. C'est vraiment une bête.
Moi, j'ai été estomaqué par la vitesse des balles, mais au secours. Et c'était pas qu'une fois de temps en temps. C'est tout le temps.
Il y a eu
quelques
joueurs qui font pas partie du top 10 se sont posé des questions sur la vitesse des cours, sur la vitesse des terrains, qui favorisent justement le jeu de certains joueurs comme
Ils favorisent le jeu des meilleurs. Hein, c'est toujours le même problème, quoi. Donc on va pas les empêcher de jouer non plus. Hein. À part raccourcir, comme au golf d'ailleurs, raccourcir les parcours, modifier les balles, changer les règles pour justement niveler le niveau. Les meilleurs, de toute manière, les meilleurs s'en sortiront toujours. Mais là, en l'occurrence, ben, ceux-là vont plus vite, ceux-là tapent plus fort, ceux-là retournent plus vite.
Et là, la différence de niveau est impressionnante entre les deux meilleurs, Yannick Sinner, numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz qui terminera l'année numéro 1. Il y a autant d'écart entre le numéro 2 et le numéro 3 que le numéro 3 et le millième mondial.
Il y a 5000 points d'écart au classement ATP entre le deuxième et le troisième, c'est-à-dire entre Sinner et Zverev, il y a 5000 points d'écart. Après, ils se tiennent tous à 5, 4 000. Il y en a tout un paquet. J'avais fait un relevé
des centaines
classements. Et moi, ce que j'ai noté là dans le classement, qui m'a aussi un petit peu embêté, quoi, c'est que le premier Français, il est à la 29e place, c'est Rinderknecht. Ensuite, on passe à la 35e avec Moutet. 37e Humbert, 40e Arthur Fils, 42e Müller, 58e...
Les Français dans le top 100 sont nombreux, mais pas dans le top 10, pas dans le top 15, pas dans le top 20, effectivement.
Donc après, on peut me dire, oui, le rebond, le terrain... Non, on a un problème de niveau
en France au niveau du tennis, notamment dans le haut niveau, que ça soit chez les hommes ou chez les femmes. Chez les hommes, c'est un peu moins sensible, parce que comme tu l'as dit, Léo, on a du monde dans le top 100, mais ça fait pas des vainqueurs, tout ça. Et au niveau féminin, c'est une catastrophe, on n'a personne. Quoi.
Alors, sur les tournois, les ATP 250, les challengers qui sont de seconde catégorie, il y a les challengers comme celui de Nouméa, on voit certains Français, mais sur les tournois, les masters, les tournois du Grand Chelem, malheureusement, et ça fait de nombreuses années, à part des surprises comme on a vu cette année avec la Française Louise Boisson, malheureusement, on est loin. Qu'est-ce qui manque à nos Français? J'ai l'impression qu'on se pose souvent la même question. Qu'est-ce qui leur manque?
Je pense que si on le savait, je pense que les techniciens de la fédération et les grands techniciens auraient modifié tout ça. Il y a sans doute beaucoup, beaucoup de choses.
Problème de mode, moi
peut-être,
je dirais déjà.
Oui, peut-être un peu de talent, peut-être effectivement un désintérêt léger pour le tennis. Peut-être aussi que les autres pays ont fait énormément de progrès, énormément d'efforts.
Au niveau, c'est la régularité aussi, des fois, qui fait la différence. Ouais. Parce que là, souvent, tu parlais de Boisson, c'est un coup, elle a fait un tournoi, deux tournois, et puis, malheureusement, après, c'est retombé. Et Arsène Wenger disait, ce qui fait la différence entre un sportif de très haut niveau et de haut niveau, c'est l'endurance à la motivation et la ténacité. C'est peut-être ça. Enfin, je dis pas que c'est ça. Hein, je suis pas tennisman.
En plus du talent.
En plus du talent. Le talent technique aujourd'hui.
Ouais. Bien sûr. Mais c'est ça. Le talent, faut aller le chercher. Ouais. Ensuite, est-ce que les centres de formation sont à la hauteur comme ils le sont aujourd'hui au niveau du football? C'est quand même étonnant. Je veux dire, on est 65 millions en France, 70 millions. On n'est pas foutu de sortir un mec dans le top 10 au tennis.
Le résultat, il est là, c'est qu'effectivement, ça marche pas, quoi.
Il y a un souci. Alors, est-ce que la fédération, c'est trop longtemps? Est-ce qu'il n'y a pas des bagarres de... J'en sais rien, là. Est-ce qu'il n'y a pas des bagarres de clans qui font que ça freine un petit peu les motivations? Est-ce que les intérêts personnels n'ont pas pris le dessus sur les intérêts généraux, les intérêts collectifs? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt aujourd'hui au tennis? Est-ce que les sponsors et le système économique s'intéressent suffisamment au tennis en France?
On entend souvent qu'il y a un problème financier dans le tennis. Les joueurs qui ne font pas partie du top sont souvent à la recherche d'argent, de sponsors.
Mais pour c'est mondial, c'est, hein, tous
c'est,
les.
Alors voilà, c'est pas que français, effectivement. Mais la question se pose là aussi sur le suivi des joueurs.
Oui, mais c'est sûr qu'il faut aider, quelles que soient les disciplines. D'ailleurs, c'est sûr qu'il faut aider tous les jeunes, etc. Mais il faut pas que les jeunes attendent qu'on les aide. C'est d'abord aux jeunes de proposer quelque chose. C'est d'abord aux jeunes de montrer ce dont ils sont capables et surtout d'être capables de travailler beaucoup, d'être capables de fournir des efforts. Et puis ensuite, effectivement, la fédération peut venir en aide. Mais on attend trop souvent, et je pense que c'est peut-être le cas en France. On attend trop souvent, moi je le vois dans le golf, hein, les jeunes veulent qu'on leur donne avant même qu'ils aient eux donné quelque chose. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Donnez-vous, montrez-nous, et puis ensuite on fera le reste. Voilà.
Le tennis italien peut être un exemple. On voit qu'il y a beaucoup d'Italiens aujourd'hui qui suivent les traces de Sinner, entre Musetti, il y en a quelques-uns, je n'ai pas tout le nom en tête, mais les Italiens sont là, ils sont présents dans le top 20.
Le fonctionnement est différent, que ce soit aux États-Unis ou dans ces pays-là. Ils fonctionnent dans des académies qui sont souvent privées, donc qui demandent énormément d'argent. Et on ne se repose pas sur ce que tu disais, Eric, sur la fédération. Eux, ce sont des académies privées où il y a les meilleurs entraîneurs.
Ils se posent souvent moins de questions. Alors là, tu parles des Américains, mais ça, c'est très, très flagrant, ça. Les Américains, ils ne te demandent pas comment tu fais, et ils te demandent combien tu fais.
C'est ça.
Voilà, c'est tout. Tu peux. Et là, je reprends encore l'exemple du golf, tu peux avoir le swing que tu veux, peu importe, c'est pas beau, c'est pas académique, ça score, c'est performant, voilà, c'est tout. Et là, on va effectivement t'aider.
En plus, ce qui favorise aussi ce système des Américains ou Australiens aussi, c'est ces fameuses bourses d'études qu'ont les étudiants qui sont en fac, quoi. Quand tu es dans une université aux États-Unis,
football américain, basket,
tous les sports. Et en Australie, c'est la même chose. Même en Allemagne aussi, c'est la même chose. Si tu es bon en sport, tu as des bourses d'études, tu es aidé, tout est pris en charge, quoi. Donc il faut être au top niveau de son université pour pouvoir après émerger au plus haut niveau. Donc c'est une usine à champions. Le sport universitaire, tu le connais bien.
Olivier Daigneau.
Olivier,
en athlétisme, c'est exactement ça. Voilà. Ceux qui réussissent sont ceux qui ont les bons résultats. Ils sont pris à 100%, bourse d'études 100%. Et tu vas dans l'université qui te choisit, puisque tu feras partie de l'équipe de cette université. Oui.
Voilà, alors qu'en France, le sport universitaire, excusez-moi, je ne veux pas être médisant, mais qu'est-ce qu'il représente? Il ne représente rien.
Il n'y a pas grand-chose.
Rien du tout.
C'est pas significatif. En Nouvelle-Calédonie, on a réussi à mettre un parcours, le PESU universitaire, en place pour quelques sportifs de haut niveau, mais on est vraiment pilote au niveau. On est pilote au niveau du territoire. Français, national.
En espérant que ce soit suivi partout en métropole. Ouais. Le temps file encore une fois. On va avoir un petit mot de golf avec vous, Eric Figuer. Vous aviez une très bonne actu pour les Français.
Très rapide, mais effectivement, il est important d'en parler, puisqu'il y avait la finale du circuit européen hier soir, tard dans la nuit. Donc, je suis un petit peu fatigué. Voilà. Puis derrière, il y avait la moto, donc c'était compliqué. Il y a eu mal à se coucher. Mais oui, il y avait la finale donc, du circuit européen à Dubaï. Qui a été remporté, donc l'année a été remportée par Rory McIlroy pour la 7e fois. Donc il a dépassé le grand Severiano Ballesteros et il est plus qu'à une unité de Colin Montgomery, l'Écossais. Donc c'est absolument fabuleux et surtout hier soir, la dernière partie, enfin le dernier jour a été avec un scénario assez incroyable et c'était fantastique. Il a fini par perdre finalement en play-off Rory McIlroy contre Mats Fitzpatrick, pardon, mais il a réussi à gagner donc pour la 7e fois avec un dénouement inattendu. Il a fallu qu'il fasse un exploit sur le 18e trou, c'était assez fabuleux. Donc il était important d'en parler. C'est aujourd'hui, voilà, on le sait depuis longtemps, il a marqué l'histoire du golf européen. Il continue à écrire l'histoire et ça, c'est magnifique.
Est-ce que c'est votre coup de cœur ou vous en avez un autre pour ce soir?
J'en ai un autre.
Allez, je vous écoute. On va ouvrir le bal.
Dans la foulée, alors, c'est un golfeur aussi, mais c'est un golfeur calédonien. Il a 15 ans. Il est du club de Tina et il vient de remporter l'Omnium de Deva. Il s'appelle Auguste Lardin. Il y a quelques semaines, dans le sud de la France, du côté de Biarritz, réussi une 12e place au championnat de France de sa catégorie d'âge. C'est une très bonne performance. Et je suis certain que l'année prochaine, les résultats vont être meilleurs et vont continuer à s'améliorer. Et là, à 15 ans, gagner l'Omnium devant les vieux Briscard, devant les Cadors, c'est une très très belle performance. Il est bien entouré, il travaille bien, il est sérieux et il a l'un des meilleurs coachs français, pas calédonien, pas nouméen, non, un des meilleurs coachs français, qui est Julien Fauré. Donc, grâce à tout ça, et ben, je pense qu'il va aller loin. Auguste Lardin.
On suivra ce nom, on le note sur nos tablettes. Merci beaucoup. Jean-Luc Leroux, votre coup de cœur ce soir?
Moi, ça sera l'équipe équipe de foot qui a fait match nul aux Océania. Je considère que c'est un petit exploit. C'est aussi le résultat d'une abdégation, de beaucoup de travail. Les gens ont cru là-dedans. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Voilà, je suis content. C'est bien.
Merci beaucoup. Bruno, Olivier.
Alors moi,
Olivier,
ça sera, Bruno. Voilà, vite fait, moi, ça sera Olivier un joueur Bruno. De rugby qui s'appelle Dan Carter, le Néo-Zélandais. Ah, je viens de lire un article sur lui, sur l'équipe et sur sa vie d'après.
Légende.
Qui est vraiment extraordinaire. C'est un mec d'une simplicité remarquable et ouais, enfin bref.
Après,
un bon mec, quoi.
Énorme. Énormément. On va terminer avec vous, Bruno Salvé.
J'avais parlé de lui il y a quelques semaines. Donc c'est Rodrigue Netti qui a
deux semaines effectivement.
Qui a honoré sa 3e sélection, je crois. Ce week-end contre les Fidjiens, ça fait toujours plaisir de voir un Calédonien évoluer au plus haut niveau. Donc après sa première sélection qui était en 2020, donc 5 ans après, les résultats qu'il a avec son club et sa régularité ont fait qu'il a eu la possibilité de jouer contre les Fidjiens. Donc bravo Rodrigue.
Et peut-être. Encore une sélection la semaine prochaine.
On verra, on croise les doigts, ouais, on le souhaite pour lui.
Merci beaucoup messieurs, c'est sur ces belles paroles que se termine donc cette semaine formidable.